Un film de Douglas Sirk de Philippe Besson. Elle. Oui, commençons par elle, parce que c'est elle qui a pris le plus de risques dans cette histoire. Elle qui avait le plus à perdre. Elle qui a hésité le plus longtemps aussi, et pour cause. Claire Jourdan. Issue de la bonne bourgeoisie bordelaise, celle des vignobles des châteaux. Le père dirige le domaine avec l'élégance dédaigneuse des possédants, l'insupportable bohémie des héritiers. La mère élève la progéniture, deux fils et une fille. Claire est la petite dernière, survenue comme un caprice ou comme une erreur, qu'importe. On n'attend rien d'elle. Le pouvoir sera transmis aux garçons. Les filles, on les marie à l'église, le moment venu. Enfant, elle va souvent se promener seule au milieu des pieds de vigne. Elle foule la terre, s'accroupit pour contempler les racines, parce qu'on lui a raconté un jour qu'elles peuvent plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur. Elle caresse la nervure des feuilles, elle aime cueillir des grappes quand le raisin n'est pas encore mûr, elle aime l'amertume des grains craquant sous la dent. Elle revient parfois le visage griffé par les sarments. Elle est cette fillette, au visage griffé. À propos de l'enfance, elle dit « Je me souviens du vert et bleu, le vert des vignes, le bleu des ciels de Gironde. » Elle ne parle pas du rouge, pourtant c'est la couleur du vin. Mais le vin ne l'intéressait pas, ou elle en avait peur. Elle prétendait que ça ressemblait au sang d'un animal. Ça faisait rire les adultes. Elle, ça ne la faisait pas rire, non. Décidément, elle préfère se souvenir du vert et du bleu. Et puis, l'enfance s'arrête le jour où la famille quitte le domaine pour s'installer dans un grand appartement à Bordeaux. La mère en a eu assez des vignes à perte de vue et de la blondeur des pierres. Elle cherche le mouvement, la mondanité. Ce seront les allées de Tourny dans le Triangle d'Or. Ils habitent côté père, bien sûr. Un immeuble à la façade Louis XV. La chambre de Claire donne sur la cime des tilleuls, le toit du carrousel. Dans le lointain, les colonnes du grand théâtre, elle dit « J'ai eu une adolescence très privilégiée et très ennuyeuse. » Pour échapper à l'ennui, elle fait des études. Pas de commerce comme ses aînés, non. D'anglais. Une lubie. Elle a vu les films de Hitchcock, de David Lean, au cinéma. On la laisse faire, quelle importance, si ça l'occupe. Elle persévère, obtient sa maîtrise, la première femme dans la famille à être allée aussi loin. On la regarde comme une bête curieuse, mais il ne faudrait pas qu'elle aille croire qu'elle pourrait avoir droit à l'émancipation. À 22 ans, elle épouse un notaire, de 7 ans son aîné, une grosse étude, une belle situation, des gens si fréquentables, du reste on les fréquente, allée de Tourny. Quand on l'interrogera sur ce mariage, qui semblait de raison plus que d'amour, elle dira « Oh, c'était la seule occasion de partir, de m'affranchir. » Pourtant, elle n'ira pas très loin. Place des Quinconces, 500 mètres seulement la séparent du domicile familial. Elle l'assure aujourd'hui « Ces 500 mètres ont fait toute la différence. » Deux enfants naissent très vite. Un garçon, une fille, le choix du roi. Claire fait tout comme il faut. Une incongruité tout de même. Elle entend travailler. Son mari s'en étonne. Bah, à quoi bon travailler quand on vit dans l'aisance? Mais il n'insiste pas. Elle passe un concours, l'obtient, devient professeur dans un lycée de la ville. Un salaire de misère, mais un statut respectable. L'honneur est sauf. Quelques années plus tard, elle décide de reprendre le ciné-club moribond de l'établissement. En souvenir de ses emportements adolescents, elle programme essentiellement des films américains. Elle raconte « Je leur ai fait connaître Douglas Sirk. Demain est un autre jour, tout ce que le ciel permet. On a oublié, mais ce sont des très grands films. » Elle omet de signaler que dans le premier, un homme espère échapper à une vie bien trop réglée grâce à une femme expiègle, enjouée, mais ses enfants, des tyrans égoïstes, font échouer son espérance et le renvoient à sa routine. Et dans le second, une veuve, qui mène une existence terne mais aisée, est attirée par le fils de son jardinier, bien plus jeune qu'elle, et d'un milieu bien différent du sien. Les films qu'on aime disent toujours quelque chose de nous. Le temps passe et à peu près rien ne se passe. Les enfants grandissent, l'office notarial est florissant. Sur la place des Quinconces, les arbres retrouvent leurs feuilles au printemps et les perdent à l'automne. C'est un spectacle immuable et déprimant. Parlons de lui désormais, puisqu'il faut être deux pour faire une histoire. Étienne Lanzac, un prénom qui fleure bon la France d'antan, qu'on ne donnait presque plus au nouveau-né quand il voit le jour. Mais le grand-père s'appelait ainsi. Allez, va pour Étienne. Naissance à Angoulême, une cité endormie construite autour d'une cathédrale. Deux reliefs, l'un représentant Saint-Martin, partageant son manteau avec un mendiant, l'autre Saint-Georges, terrassant le dragon et sauvant la fille du roi. Étienne dira « Ah, je les ai souvent regardés, ces reliefs !» La ville est juchée sur un plateau qui domine la vallée de la Charente. Elle est ceinte de remparts. L'enfant marche plus souvent qu'à son tour le long de ces remparts. Il grimpe sur les murets, tient l'équilibre, les bras en croix. Un jour, sa mère le surprend et terrorisée lui fait jurer de ne plus jamais recommencer. Il jure et ne lui obéit pas. Il recommence dès le lendemain. « Oh, c'était plus fort que moi, » dit-il. Les parents, justement, ils sont pharmaciens, possèdent une officine non loin du Champ de Mars. Étienne a un frère aîné qui lui aussi deviendra pharmacien. Il se jure d'échapper à la malédiction. Imiter n'est pas son genre. Être pharmacien n'est pas son destin. Dès lors, il serait tentant de l'imaginer en Rastignac, natif d'Angoulême comme lui. Vous savez, le héros de Balzac, le jeune ambitieux qui monte à Paris, devient banquier, louvoie dans la bonne société, amasse des richesses, conquiert le pouvoir. Mais Étienne n'est pas cynique, il préfère Dumas à Balzac. Il se verrait plutôt en corsaire partant à l'abordage. Du reste, son modèle n'est-il pas ce fameux grand-père dont il porte le prénom et qu'il va rejoindre dès qu'il le peut à Biarritz dans sa maison face à la mer, face au grand vent? Un grand-père qui lui raconte son passé de marin, d'aventurier comme on n'en fait plus. Sans doute le vieillard en rajoute-t-il un peu pour complaire un enfant. Sans doute invente-t-il des expéditions, des péripéties pour que ses yeux brillent. Mais enfin, il est certain qu'il n'a pas eu une existence ordinaire. Et c'est tout ce qui réjouit ce gamin qui aspire à autre chose sans savoir à quoi. Pour lui aussi, l'enfant s'arrête avec un déménagement. Alors qu'il a 12 ans, ses parents se séparent. Sa mère s'en va vivre à Bordeaux, il la suit. Bon, il ne regrette pas Angoulême. Au sujet du divorce, il ne s'exprime pas. On ignore s'il s'agit d'une blessure intime, de celles qu'on porte à jamais, qui font souffrir en silence, ou s'il considère au contraire que c'était la meilleure façon de mettre fin à un désordre, des disputes incessantes, un éloignement irrémédiable. Au collège, puis au lycée, il est un élève brillant. Il collectionne les meilleures notes, les premières places. Un jour, on lui parle du ciné-club. Oh, il aime le cinéma. Il va souvent, mais ne voit que les films qui sortent. Il se dit que ça doit être bien aussi les vieux films en noir et blanc, les classiques, les pépites oubliées, les westerns ou les comédies musicales en technicolor. Il s'inscrit. Voilà. La rencontre peut avoir lieu. De son côté, Claire remarque à peine Étienne. Elle est heureuse, bien sûr, d'accueillir un élève supplémentaire, mais il n'est qu'un parmi les autres. Et des élèves, elle en côtoie beaucoup. Depuis le temps, elle s'intéresse à eux, ça ne fait pas de doute. Ils sont même souvent sa plus grande motivation dans l'existence. Et on prétend qu'elle sait leur parler, même les captiver. Pour autant, elle conserve ses distances. Pour lui, c'est différent. D'emblée, il ressent une sorte de trouble qu'il ne sait pas définir précisément. Il n'a encore jamais aimé. Comment saurait-il? Comment reconnaîtrait-il un sentiment qu'il n'a jamais éprouvé? Et puis, on l'a mentionné, les sentiments, ce n'est pas tellement son registre. Il fait appel à son intelligence pour tenter de comprendre, mais son intelligence ne lui est d'aucun recours. Et c'est précisément lorsqu'il comprend cela, l'inutilité de son intellect, qu'il finit par admettre qu'il ne peut s'agir que d'un élan amoureux. D'autres que lui en seraient catastrophés, Il est lycéen, il est professeur. Il a 16 ans, elle en a 37. Il est sans expérience, elle est épouse et mère. Pouh, elle le repoussera, inévitablement. Ses seules considérations devraient l'arrêter, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Puisque tout rapprochement semble impossible, il faut le tenter. Toujours partir à l'aventure, lui et Sorine, son grand-père. Il la drague. Énonçons les choses clairement. Oh, ben pas devant les autres. Il n'est pas fou. Il la drague avec délicatesse, avec courtoisie, avec style, avec éloquence. Mais il la drague. Au début, elle s'en amuse. Il ne peut pas être sérieux. Elle met un tel entregement sur le compte de sa malice et de l'audace propre à la jeunesse. Elle n'y accorde pas d'importance. Puis, elle finit par s'en inquiéter. Tout de même, ce garçon est très insistant. Certes, il est brillant, virevoltant, courageux. Certes, il s'intéresse au cinéma, décrypte mieux que personne les histoires, les plans, le jeu des acteurs. Certes, elle n'est pas son professeur, juste la personne qui s'occupe du ciné-club. Mais enfin, il ne saurait être question d'un rapprochement. Elle veut bien de son affection, elle n'est pas bégueule, mais rien de plus. Il ne renonce pas.